Nous allons étudier aujourd'hui un thème très intéressant et qui, pour la majorité des gens, est source de beaucoup d'inquiétude. Et celui de la mort et de ses phénomènes. Il est certain que la majorité de ces raisonnements essayent d'éviter de parler de la mort, et cela, parce que nous sommes très attachés au plaisir sensuel. Nous sommes très attachés à la matière, l'ignorance, dans laquelle nous sommes à ces propos. Fait que le thème de la mort soit ignoré par nous tous. Nous restons évasifs sur des sujets, n'est-ce pas? Nous trouvons des justifications, des réponses enjolivées, agréables, qui ne sont pas que des refus pour expliquer la mort, subjectivement intéressant. Nous allons donc étudier ce thème de la mort, même s'il est de plus en plus difficile d'aborder dans ce temps où la dégénération s'est emparée de tous les domaines de la société et a aussi atteint tous les sens de l'être humain. Il y a beaucoup de théories, d'hypothèses, beaucoup de livres ont été écrits sur la mort. Et nous nous trouvons malheureusement donc dans un labyrinthe d'innombrables théories sur la mort. Nous devons donc travailler sur le développement des facultés latentes de l'être humain afin que chacun puisse vérifier par lui-même et comprendre de façon directe ce sujet si intéressant qu'est la mort. Nous allons donc commencer par cette phrase très ancienne qui déclare « Le sentier de la vie est formé par les empreintes des sabots du cheval de la mort. » C'est une phrase très intéressante car elle nous dit que la vie et la mort sont connectées, sont liées. Quand on étudie à fond ce thème de la mort, disparaît alors cette peur qu'elle nous procure. Cette peur de la mort est due à l'ignorance. Elle est due à toute cette méconnaissance que nous avons sur les dimensions de la nature et les phénomènes qui se produisent en elle, les objectifs que nous avons dans la vie. Nous vivons comme des petites machines, comme des robots programmés, comme des somnambules. Nous travaillons pour nous nourrir, nous naissons, nous grandissons, nous nous reproduisons, comme des petits animaux, nous vieillissons et nous mourons, et puis, c'est tout. Nous sommes tenus donc d'approfondir ces sujets. En d'autres époques, l'être humain avait des facultés développées. Par exemple, à l'époque de la Lémurie, dans laquelle vivait la troisième race humaine de la planète Terre, nous autres étant la cinquième race de cette race qui doit porter cette planète Terre. Eh bien, cette troisième race de Lémuriens avait des facultés intérieures éveillées, naturellement. Ils avaient une clairvoyance positive et consciente. Ils avaient la capacité de voir l'ultra, la nature, la dimension supérieure, et cela leur permet de ne pas avoir peur de la mort. Pourquoi? Ils savaient plus ou moins quand ils allaient mourir et creuser eux-mêmes leur tombe de façon que leur tête soit dirigée vers le nord. Ils saluaient joyeusement leur famille pour leur dire au revoir, sans pleurs ni cris, car les familles savaient qu'elles pouvaient les voir dans cette dimension après la mort de son corps physique, lorsqu'ils seront désincarnés, car ils seront visibles grâce à leurs facultés, facultés en nous que nous avons perdues à cause de notre dégénération. Un exemple très rapide. Lorsque nous sommes en colère, nous arrêtons de voir autour de nous, n'est-ce pas? Notre corps, de manière physiologique, nous oblige à nous focusser devant nous. Alors, par la colère, nous perdons la capacité de voir autour de nous. Voyez-vous comment les défauts psychologiques nous empêchent d'avoir ces facultés très supérieures, très délicates. Et nous avons perdu toutes ces facultés dues à la manifestation de nos défauts psychologiques, comme dans cet exemple de la colère. Bien. Mais qu'est la mort? Eh bien, en elle-même, la mort est l'arrêt de toutes les fonctions organiques. Notre corps s'arrête de fonctionner. Bien. Il n'est pas correct de dire « cette personne est morte ». Non. La personne qui pense, leur conscience, qui ressent, ne meurt pas. Son corps physique, oui. Son corps physique ne fonctionne plus. Son véhicule physique ne fonctionne plus, mais en réalité, c'est tout. Toutes les fonctions organiques s'arrêtent. D'accord. Voilà ce qu'est la mort. En fait, la mort est un reste de fractions dans lequel se trouvent les valeurs. Voilà ce qu'il reste après tout. Le corps physique se reste de fonctionner, s'écarte, et il reste les valeurs. Pour mieux comprendre le phénomène de la mort, les personnes ont tendance à y mettre beaucoup de fantaisies. Elles cherchent à deviner, à spéculer, à rechercher des refuges psychologiques au sujet de la mort, et cela à cause de notre attachement aux choses matérielles, au développement des plaisirs sensuels. Voilà pourquoi nous inventons beaucoup de choses au sujet de la mort. Mais nous connaissons tous ces phénomènes de la mort parce que ces processus mathématiques qui arrivent au moment de la mort, nous les vivons tous à chaque fois que nous allons nous endormir. Mais n'ayez pas de peur. Cela veut dire qu'un sommeil est une petite mort. C'est une terrible réalité de la sagesse populaire. Dormir est une petite mort. Quand nous nous endormons, il se passe exactement le même phénomène qui se passe dans le moment de la mort. Lorsque l'on va se coucher pour se reposer, on s'endort, on laisse son corps physique dans le lit avec le corps vital qui reste là pour le revitaliser, précisément, revitaliser le corps physique, pendant que nous sommes hors dans notre corps astral, dans le monde des rêves. Bien. On se dédouble vers son corps astral et on s'en va dans le monde de la cinquième dimension, ou monde de l'éternité, ou le monde des rêves. Le corps physique reste donc couché dans le lit. Notre corps vital aussi, puisque c'est lui qui le revitalise, avec l'aide des hormones, des glandes endocrines, etc. Et nous sommes reliés au corps physique par les cordons de Antakarana, les cordons de vie ou les fils d'argent. Ce cordon d'Antakarana ne peut pas se rompre par accident ou parce que quelqu'un a venu les couper. Non, chers amis, non. Il nous relie toujours au corps physique. Nous pouvons nous rendre sur notre planète, notre pays, où nous les souhaitons, car ces cordons s'allongent à l'infini et il peut également se raccourcir au minimum. Il garantit notre retour au corps physique toujours, bien que nous sommes dans le monde des rêves, conscients ou pas. C'est toujours ainsi. C'est un phénomène naturel. C'est quelque chose qui appartient à notre nature, même si naturel comme le processus de respirer. Au moment de la mort, c'est exactement la même chose. Le corps physique reste ainsi, ainsi que le corps vital. Nous nous dédoublons un corps astral dans la cinquième dimension. La seule différence, chers amis, étant que le cordon d'argent se rompt. Lorsque le cordon d'argent se rompt au moment de la mort, nous ne pouvons plus revenir dans notre corps physique. Mais il s'agit du même processus, du même phénomène. La mort est un sommeil très long, tandis que le sommeil de nos nuits n'est qu'une petite mort. Nous vivons donc ce même processus de la mort lorsque nous allons dormir. Donc, faire de telles spéculations qu'il existe un tunnel avec une lumière, que ceci ou que cela, ne sont que des spéculations. Que se passe-t-il lorsque nous nous endormons? Est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes en train de dormir? Est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes en train de rêver? Sommes-nous alors conscients de ces processus? La plupart du temps, ce n'est que nous réveillant que nous nous rendons compte que nous étions en train de dormir ou de rêver. Et lorsque nous étions en train de dormir et de rêver, nous pensions que nous étions réveillés déjà dans le monde physique. C'est pareil pour la mort. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes mortes. Comme nous n'avons pas, durant notre vie, toute faite pour réveiller notre conscience et que nous ne nous sommes pas préoccupés d'éliminer, de détruire tous ces défauts de type psychologique que nous possédons à l'intérieur de nous et que nous mentions endormis, somnambules. Nous ne nous préoccupons pas pour réveiller nos valeurs positives de l'être. Eh bien alors, lorsqu'on meurt, c'est pareil. On ne se rend pas compte que l'on est mort. Nous n'avons jamais essayé de nous dédoubler consciemment pour sortir un corps astral en conscience. Nous n'avons jamais vécu en travaillant en conscience pour gagner notre pain quotidien. Jamais vécu en conscience lorsque nous étions en train de nous nourrir. Nous ne nous sommes jamais occupés de veiller notre conscience dans tout ce que nous faisons. Et à l'heure de la mort, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes déjà morts. Nous pensons que nous continuons à être en vie et nous continuons à faire lamentablement les mêmes choses que nous faisons durant notre vie. C'est alors ce qui se passe lorsque nous sommes en train de rêver. Nous répétons ce que nous avons fait durant la journée. Si nous travaillons dans une usine, nous continuons à le faire durant les rêves. On continue à travailler dans notre usine. Tout ce que l'on fait durant la journée, nous le répétons dans le monde des rêves. Et lorsque l'on meurt, on fait encore exactement la même chose que l'on faisait durant sa vie dans notre corps physique. Dans la vie, nous projetons nos rêves et nos désirs dans le monde des rêves pendant que nous vivons. De même que dans la mort, on fait la même chose. La mort n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous la vivons toutes les nuits. Le rêve est une petite mort. Lorsque nous nous couchons et que nous nous endormons, nous vivons le processus de la mort. La différence est que nous pouvons revenir et entrer à nouveau dans notre corps physique. Je répète, le corps astral va se dédoubler et sortir de notre corps physique en restant connecté à lui par les cordons d'Antakarana. C'est exactement la même chose durant la mort, à part que le cordon d'argent sera rompu. Si nous comprenons bien le processus du sommeil, nous comprendrons alors le mystère de la mort. Si nous réveillons notre conscience dans le monde des rêves, et ici et maintenant, pendant que nous sommes vivantes, alors, à l'heure de la mort, nous serons préparés et nous serons conscientes durant le processus de la mort aussi. Eh bien, comment se produit la mort? Il existe différents types d'énergie très intéressantes qui circulent dans notre organisme, par exemple. Au quatrième mois et demi de la conception, commence à circuler dans notre organisme l'énergie de la force motrice et musculaire. À 10 mois et demi, commence à circuler en nous l'énergie de la croissance avec ses merveilleux métabolismes et changements dans notre organisme, toujours. À 2 ou 3 ans de vie, la fontanelle frontale s'est fermée, ce qui indique que nous avons perdu la clairvoyance positive qu'ont les bébés, car nous naissons avec une clairvoyance positive développée parce que les défauts psychologiques ne sont pas encore entrés et nus totalement. Alors, lorsque la fontanelle frontale s'est fermée à 2 ou 3 ans de vie, cela nous indique que notre système nerveux commence à être mûr. Et alors, nous avons la capacité d'exprimer les premiers défauts psychologiques. Normalement, la convoitise, la colère, l'envie. D'accord? Et comment ces défauts psychologiques s'expriment? Ils empêchent la manifestation de notre clairvoyance positive et nous la perdons. Ce qui signifie qu'un bébé peut voir les morts, il peut voir les éléments de la nature, il peut voir les différentes dimensions du cosmos. C'est pour cela qu'on les voit de temps en temps fixer son regard sur un mur ou vers une plante avec laquelle il peut communiquer. Et il rit tout seul parce qu'il a une clairvoyance positive et il est en train de boire les éléments, ces créatures de la nature. Quand la fontanelle se ferme, cette clairvoyance positive se perd. Lorsque la fontanelle est fermée, cela signifie que notre système nerveux est totalement formé et cela grâce à notre type d'énergie. De 0 à 7 ans se forme la personnalité humaine. Eh bien, qu'est la personnalité humaine? C'est un coquille énergétique qui sert de véhicule pour que nous puissions nous manifester dans la société. C'est notre façon de parler, de discuter, de manger, de marcher, de rire. Tout cela fait partie de notre personnalité et elle s'acquiert se forme de l'âge de 0 à 7 ans. C'est une coquille énergétique que nous formons durant nos 7 premières années de vie. Elle n'est jamais la même à chaque fois que nous prenons un nouveau corps physique. Parce qu'il était ainsi, nous ne serions pas en face avec la société. Imaginez la personnalité d'une personne du moyen âge. Si elle vivait de nos jours avec sa personnalité, elle ne serait pas en accord avec notre vie d'aujourd'hui, avec la société de maintenant. Une nouvelle personnalité se forme chaque fois que nous prenons un corps physique et elle se forme durant les 7 premières années de la vie. Vers 14 ans, se forme l'énergie personnelle qui fait fonctionner toutes les caractéristiques sexuelles secondaires de l'individu. Le jeune homme a une voix plus grave, la voix de la jeune fille est plus aiguë, elle commence à avoir des formes féminines naturelles, etc. Et c'est là grâce à cette énergie si importante, si puissante, si terrible, de manière positive, qu'est l'énergie créatrice. À l'âge de 35 ans, Cicolinus a un autre type d'énergie qui fait que l'on mourit. Et on cherche l'un des quatre chemins d'existence pour trouver la vérité. Bien sûr, cela s'est fait de façon mécanique et peut arriver à l'âge de 14 ans, mais aussi à l'âge de 11 ans, de 7 ans, de 20 ans ou de 40 ans. Cela n'a pas d'importance, mais de manière fréquente, de manière commune, mécanique, grâce à ce type d'énergie qui recherche la maturité, on recherche l'un de ces quatre chemins. Et quels sont ces quatre chemins? Ces quatre chemins sont le chemin du fakir, le chemin du moine, le chemin du yogi et le chemin de l'homme et de la femme équilibrée. Le chemin du fakir est la recherche de la domination sur le corps physique. Le chemin du moine est la recherche de la domination des émotions. Le chemin du yogi est la recherche de la domination du mental. Et le chemin de l'homme équilibré est la recherche de l'équilibre, du développement du physique, des émotions, du mental et de la volonté. Les trois premiers chemins, celui du fakir, du moine et du yogi, sont des chemins préparatoires afin d'avoir la maturité pour entrer ensuite dans le quatrième chemin, le chemin de l'homme et de la femme équilibrée. Nous recherchons à 35 ans, de façon mécanique, l'un de ces quatre chemins, mais nous le répétons avec l'agnose, nous pouvons trouver ce quatrième chemin, ce chemin direct qui peut nous conduire à la vérité intérieure. Le dernier type d'énergie qui circule dans notre organisme est l'énergie appelée les rayons de la mort. C'est une énergie à laquelle nous ne pouvons résister parce que nous n'y sommes pas préparés. Elle nous réduit bien sûr à une seule valeur alors. Les cordons d'Anjan, les cordons d'Antakarana se rompent et arrive l'arrêt du fonctionnement du corps physique et donc la mort. La mort donc se produit à cause d'une énergie de très haut voltage que nous ne pouvons résister. Il circule dans notre organisme et nous réduit à notre cinquième essence moléculaire. De même qu'une tonne de fleurs peuvent se réduire à quelques gouttes d'essence parfumée, lorsque nous mourons, nous nous réduisons à un malheur. La mort étant un reste de fraction, des malheurs, donc. Les rayons de la mort nous réduisent à nos valeurs. C'est tout ce qu'il reste. C'est que nous sommes. Voilà ce qu'il se passe au moment de notre mort. Lorsque passent nus les rayons de la mort, ne pense pas que la mort est quelque chose de mécanique, d'inconscience, qu'on peut mourir là ou ici sans une organisation, sans une intelligence. Non. Réellement, la nature est intelligente. Si on observe la naissance d'une plante, et nous l'avons faite à l'école dans les petites classes, nous avons fait pousser des haricots ou une autre plante. On voyait comment naissait une fleur, une plante. Et il est incroyable de voir la géométrie d'une plante, de voir l'intelligence qui fait que naît une plante. Tous les processus de la nature ont des principes intelligents qui la dirigent et qui la guident. On peut appeler ces principes intelligents les devas en sanskrit. Nous pouvons aussi les appeler dieux, en parlant comme les mayas, les aztèques, les incas, les égyptiens. Nous pouvons aussi les appeler anges, comme on le fait dans la religion chrétienne. Et nous pouvons les appeler maîtres. On peut les appeler comme on les souhaite. Et de toutes les façons, ces intelligences supérieures, ces intelligences divines, dirigent les processus de la nature et dirigent aussi les processus de la vie et de la mort. D'accord? Il existe donc des anges de la vie et des anges de la mort. Appelons-les ainsi parce que nous sommes plus habitués à parler ainsi, généralement. Ce sont des êtres supérieurs qui sont au-delà du bien et du mal, au-delà de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Ils ne sont pas pervers, d'accord? Ils ne sont pas pervers. Ils accomplissent le travail qu'ils doivent faire. Les anges de la vie sont ceux qui connectent l'essence à la cellule germe, Lorsque la tête du spermatozoïde pénètre dans l'ovule, il la connecte juste à ce moment-là, le cordon d'antakarana, le cordon de vie, l'essence. Et c'est la vie qui commence. Interrompre cette vie est un délit contre la nature et contre les principes vivants. À partir du moment où les spermatozoïdes s'unissent, à l'ovule, c'est-à-dire lorsque se forme la première cellule, le cordon d'argente, le cordon de vie, le cordon d'antakarana est connecté à l'essence. Et si l'essence entre à notre première inspiration, oui, elle est déjà connectée lorsque la première cellule est formée par le spermatozoïde et l'ovule. C'est déjà une vie. Tout ce qui arrive au fœtus, à ce bébé, son essence va les ressentir car ils sont déjà connectés entre eux. Bien que nous parlons au bébé lorsqu'il est encore dans le ventre maternel, bien que le bébé nous écoute ou elle réactionne à notre voix, à la musique, etc., l'essence est déjà connectée. L'essence n'est pas là-bas, mais elle est connectée. C'est une vie, même si nous voulons justifier l'avortement. Cela nous regarde, évidemment. Mais n'allons pas ensuite pleurer à cause des conséquences karmiques que nous devrons récolter par la suite parce que nous avons détruit une vie. Nous avons détruit le travail de cette intelligence divine. L'essence de la vie se trouve dans la quatrième dimension. Et il existe cette dimension fondamentale. Mais nous ne percevons que trois. Dans la quatrième dimension, ou quatrième verticale, qu'Albert Einstein appelait l'hyperespace. Vivant, c'est sage de la vie, parce que les chromosomes sont en intime relation avec la quatrième dimension. Le sage de la vie forme aussi le corps vital lorsqu'il est en train de se former le corps physique. C'est une forme. C'est un énorme travail. Il y a donc ici une intelligence à la conception. Comment est-il possible que les gamètes masculins passent par la gamétogenèse? Bien, le spermatozoïde perd 23 chromosomes. Bon, officiellement 23, mais ésotériquement, il y en a 24. Parce que ce sont réellement 48 chromosomes qui sont contenus dans la cellule germe. Le spermatozoïde a 48 chromosomes. Et l'ovule a aussi 48. Chacun en perd 24. 23 par la science matérialiste est insinuante. Ils forment à nouveau les 46 chromosomes pour la science matérialiste. Mais pour nous, les ésotéristes gnostiques, nous affirmons qu'il y en a 48. Nous voyons donc que les mathématiques se trouvent en toutes choses. Et pour qu'il y ait des mathématiques, il doit exister une intelligence qui supervise et organise tout cela. Tout ceci appartient au domaine des mathématiques. Et pour toute mathématique, il existe une intelligence qui supervise tout. Se produit ensuite la danse cellulaire, cette petite cellule qui se divise en 2, puis en 4, puis en 16, et le fœtus se forme peu à peu. Un nouvel être se forme, une nouvelle vie est là. Nous pouvons y voir donc de l'intelligence. Ces intelligences sont des principes divins qui sont les anges de la vie. Les anges de la mort sont ceux qui coupent le cordon d'argente, le cordon d'antakarana, et ils se fondent à l'instant exact. Ils ne se trompent jamais. Et ne croyez pas qu'ils se trompent de personne. Non, non, non. Penser que cela peut arriver n'est que pure fantaisie. Les anges de la mort sont au-delà du bien et du mal. Ils sont une intelligence parfaite. Ils sont omniscients. Et donc connaissent perfectement le moment, l'instant exact de notre mort. Chacun d'entre nous avons notre instant exact pour mourir. C'est parce que les anges du destin déposent en nous des valeurs pour que nous vivions. Si nous respirons ces valeurs et si elles se terminent, les anges de la mort doivent couper les cordons d'argent. Mais si nous économisons ces valeurs qu'ils sont déposées, c'est nous pour que nous vivions, Nous pouvons vivre plus longtemps. Cela dépend de nous. C'est comme si votre entreprise vous donnait de l'argent pour faire un voyage, d'accord? Si nous gaspillons l'argent, eh bien, on ne va pas pouvoir arriver à destination. Mais si on fait attention à nos dépenses et qu'on économise, on va pouvoir voyager plus loin, n'est-ce pas? Bien, la vie est ainsi. Notre temps de vie dépend de comment nous économisons ou gaspillons le capital qui nous a été donné pour vivre. Si on s'alcoolise, si on se drogue, si on a tout le temps des émotions négatives à chaque instant, eh bien, on est en train de gaspiller ses valeurs vitales. Les anges de la mort vivent dans la cinquième dimension, dans le même monde de rêve. Ce sont des anges parfaits qui ont l'aspect d'enfants innocents ou de magnifiques jeunes filles ou de vieillards vénérables. Mais lorsqu'ils font leur travail, ils prennent un aspect spectral avec un faux avec lequel ils coupent les cordons d'argent et ils le font au moment précis où ils doivent le faire. Nous n'avons peut-être pas gaspillé nos valeurs, mais nous sommes complètement endormis et marchant dans la rue, hypnotisés, comme des somnambules, et une voiture peut nous écraser. Notre corps physique est détruit parce qu'on était inconscient et endormi. Les anges de la mort doivent couper ces cordons d'argent parce que notre corps physique est détruit. Ce n'était pas notre moment de mourir, mais comme notre corps physique est détruit, il faut que les cordons d'argent soient coupé. Ce cordon antekarana est le fils de la vie qui nous relie au corps physique. À l'heure de la mort, qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui continue au-delà de la mort? Bien. Par le savoir, on doit savoir tout d'abord qu'est-ce qui se termine avec la mort. Que reste-t-il dans la tombe? Ce qui reste dans la tombe, c'est bien sûr le corps physique qui est placé dans un cercueil et qui avec le temps se remplit de vers et d'insectes. Puis ce corps devient un squelette. C'est tout ce qu'il reste du corps physique. Ce qui est préférable, c'est la crémation du corps physique pour la santé de la planète et cela aide les défunts, les défunts ainsi. La crémation est préférable car dans les cimetières, il existe des énergies très négatives et nous faisons passer un très mauvais moment aux essences qui se trouvent dans les cimetières prochains de leur corps physique. Il y a certaines attractions. Il y a aussi beaucoup de magie noire, de sorcellerie dans les cimetières. Beaucoup de maladies physiques et psychologiques sont dues au cimetière. C'est pour ces raisons, pour la santé de notre planète et pour nos défauts, que nous devrions choisir la crémation du corps physique. On a beaucoup d'attachement par notre corps physique et cet attachement fait que nous restons plus longtemps dans les cimetières à côté de notre corps physique et nous passons des moments assez désagréables et inutiles dans cet endroit après la mort. Il vaut mieux faire brûler notre corps physique ainsi. L'essence perd cet attachement au corps physique car il n'existe plus et elle peut donc continuer le processus post-mortem. Donc, de toutes les façons, le corps physique reste ainsi que le corps vital qui lui reste au-dessus du corps physique. Le corps vital était celui qui donnait vie au corps physique et ce corps vital se décompose au fur et à mesure qu'il se décompose le corps physique. La personnalité que nous avions créée durant nos 7 premières années de vie et qui nous a permis de nous manifester et nous développer dans la société moderne reste-t-elle aussi au cimetière? Cette personnalité déambule et va partout où elle avait l'habitude d'aller, à l'endroit où elle vivait, à l'endroit où elle travaillait. Elle va dans les endroits où elle allait avec des amis, mais elle n'est qu'une coquille énergétique. Ce n'est pas l'âme, ce n'est simplement qu'un véhicule que nous avons créé pour nous manifester dans la société. Elle est ce que nous étions. Comment nous nous habillons, commandements Jean ou Rion, la personnalité, c'est ce que nous avons acquis avec notre éducation, ce que nous avons appris avec nos parents, notre culture. Voilà notre personnalité, la façon de nous exprimer, la façon de parler. Voilà ce qu'est la personnalité, une coquille énergétique que nous avons créée durant les 7 premières années de notre vie et qui s'est fortifiée avec les expériences de la vie. Elle aussi va au cimetière. Elle se décompose. Elle met le temps, le corps physique et le corps vital à se désintégrer. Elle peut mettre des siècles pour se désintégrer. Des siècles entiers. Et il est donc possible qu'elle arrive à s'unir à cause des affinités psychologiques, des personnalités d'un même individu, par exemple. Un individu naît. Il crée une personnalité durant ses premières années de vie. Bien. Il grandit, il vieillit et il meurt. Sa personnalité est rejetée. Mais il se réincarne, forme une autre personnalité durant les 7 premières années de sa nouvelle vie. Il grandit, il vieillit et meurt. Et cette autre personnalité est rejetée. D'accord? Nous avons deux personnalités de la même personne. Bien. À nouveau, c'est là 10 fois. Ces 10 personnalités qui ont été rejetées à l'heure de la mort s'unissent. Ils peuvent être près l'un de l'autre grâce à ces affinités psychologiques, à ces coquilles énergétiques, mettront des siècles à se désintégrer. Ces coquilles énergétiques, que sont les personnalités ou ex-personnalités, sont précisément les fameux fantômes que certaines personnes sont arrivées à voir. Ces fantômes ne sont pas les âmes des personnes décédées. Ce ne sont que des coquilles énergétiques que nous avons rejetées et elles sont faites d'énergie ou de quantas. Ces quantas étant des paquets d'énergie vibrant à une certaine vitesse. Lorsque la vitesse de vibration de ces quantas ralentit, alors ces personnalités peuvent être visibles dans le monde physique et elles provoquent des phénomènes différents que nous donnons ou nous lions ou fantômes. Par exemple, voilà une anecdote d'un chauffeur de taxi, ici au Mexique. Il a pris un soir une dame pour une course et elle lui a demandé de l'amener dans différents endroits de la ville, dans de différentes églises, et en dernier lieu, de l'amener au cimetière. Comme elle n'avait pas d'argent pour les paillères, elle lui donna une petite médaille en or, et lui disant d'aller le lendemain à une certaine adresse de la ville, où on lui donnera de l'argent en échange de cette petite médaille pour la paillère. Bien, le chauffeur accepte la petite médaille, et le lendemain se rendit à l'adresse indiquée par la femme de la vieille. Il trouva donc une personne à cette adresse qui lui annonça que la femme qu'il avait vue, la vieille, était décédée depuis de nombreuses années. Voilà l'exemple d'une ex-personnalité. Un autre cas similaire a été relaté dans le nord de Mexico. Pendant une fête dansante, arrive une femme très attractive. Plusieurs jeunes hommes, l'approchèrent pour l'inviter à danser, bien sûr. Ils dansèrent avec elle toute la nuit et ils, de manière à éduquer, la ramenèrent chez elle. Un des jeunes hommes lui prêta son manteau parce qu'il faisait froid et ils la déposèrent chez elle à la porte d'entrée et en s'assurant qu'ils se réveillaient le lendemain en prétextant revenir pour récupérer le manteau, n'est-ce pas? Bien. Le lendemain, ce jeune homme, très bien habillé et parfumé, revint à la maison de la vieille et frappèrent à la porte. Une vieille dame leur ouvrit la porte et leur demandant ce qu'ils désiraient. Eh bien, Nous recherchons une jeune fille que l'on a déposée hier ici.
Ah bon ?
S'exclame la vieille dame.
Oui, oui, parce que hier nous avons dansé avec elle dans la fête.
La vieille dame était de plus en plus étonnée.
Vous avez dansé avec elle ?
Oui, bien sûr, et je lui ai prêté mon manteau, parce qu'il faisait froid, déclare le jeune homme qui lui avait prêté son manteau. La vieille dame était de plus en plus étonnée et le fit entrer dans la maison. Il y avait une cheminée et sur elle, un cadre avec les portraits d'une jeune femme. Et la vieille dame leur demanda, en leur montrant les cadres, « Est-ce que c'est elle dont vous me parlez ?»«
Oui, effectivement, c'est bien elle, » répondirent les garçons.
La vieille dame leur dit alors, « Eh bien, il s'agit de ma fille qui est décédée il y a 3 ans. Si vous voulez récupérer votre manteau, allez au cimetière et là, vous le trouverez. » Les jeunes hommes, les jeunes diennes, Angre Doule, se rendirent au cimetière, trouvèrent la tombe de la jeune fille sur laquelle était posé le manteau prêté. Et devinez quoi, le jeune homme, qui avait prêté son manteau, ne l'a jamais remis. Eh bien, voilà des cas d'expersonnalité. La vibration énergétique qui forme la personnalité se fait plus dense et elle arrive à se matérialiser et se manifester dans le monde physique parmi nous. Voilà ce que sont les fantômes. Ce ne sont que des expersonnalités de défunt. Le sens où l'âme d'une personne décédée ne se manifeste pas. Ce qui se manifeste simplement, c'est l'ex-personnalité que nous prenons pour un fantôme, et c'est tout. Le corps physique, le corps vital, l'ex-personnalité, qui est le fantôme, reste donc dans le cimetière, et malheureusement, ce qui continue, c'est l'ego, le moi-même, formé par la luxure, l'orgueil, la paresse, la gourmandise, l'envie, la colère, la vanité, la fierté. Nos défauts continuent après notre mort. Et à l'intérieur de ces défauts se trouve emprisonnée une partie de notre essence. C'est eux qui se manifestent dans les réunions de spiritisme et par les médiums. Ce n'est pas l'âme qui se manifeste dans ces réunions, mais les différents types de défauts psychologiques, c'est tout. Bien sûr, ils parlent de façon très douce, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis votre époux déjà morte, votre fils, votre père, je suis votre père, je suis ici avec vous, etc., etc. Il parle doucement, mais c'est une fraude ou c'est un ego de la personne décédée. Il n'est donc pas souhaitable, et ici dans l'Arnos, attention. Nous ne recommandons pas les médiums, ni les réunions spiritistes ou spiritualistes. Nous ne les recommandons pas parce que les seules choses qui se manifestent dans ces réunions sont les moi, l'ego, ou plusieurs égos que la personne défunte que nous voulons rencontrer a créé durant sa vie sur Terre. L'ego donc ne disparaît après notre mort. Il continuait. Et si nous analysons bien les choses, nous nous rendrons compte que, conformément au temps qui passe, nous ne sommes pas devenus meilleurs, mais bien pires. Si nous comparons la véracité, la sincérité, la diligence, le respect des personnes âgées, l'aide à nos parents, etc., si nous comparons tout ce qui existait auparavant avec tout ce qu'il se passe actuellement dans notre monde, eh bien, en réalité, nous nous rendrons compte que c'est bien pire. Voilà qui nous montrait que l'ego continuait, que les moi continuaient dans nos descendants. Nous mourons, nous revenons dans nos descendants, et là, nos égos réapparaissent. Nos agrégats psychologiques reviennent, s'incarnèrent et nus. Voilà ce qui continue malheureusement après les morts. Mais qu'arrive-t-il après la mort? Voilà quelque chose de très intéressant. Et nous vous recommandons de lire le livre du Bardo Todol, le livre des morts tibétains, qui est vraiment très intéressant. Il existe 2 livres sur les morts et il ne faut pas les confondre.
Le livre des morts égyptiens traitait de ceux qui meurent psychologiquement, qui ont désenterré leurs défauts psychologiques, et le livre des morts tibétains, les bardo todol. Les bardo todol nous parlent des états post-mortem, des états qui se déroulent après la mort. Bardo représente ces états ou ces instants qui se produisent après la mort. Les bardo todol nous disent que l'on entend quatre sons qui inspirent une terreur sacrée. Les sons de la force élémentale du feu, les sons de la force élémentale de l'eau, les sons de la force élémentale de l'air et les sons fondamentaux de la terre. Lorsque les sens entendent ces quatre sens, elles ressentent une terreur sacrée. Elles se réfugient dans une grotte qui est une nouvelle matrice. Et en sortant de cette grotte, elle est connectée à une nouvelle cellule germe qui naîtra très prochainement. Quand on meurt, que se passe-t-il alors? Lorsque les rayons de la mort sont passés en us, les anges de la mort coupent notre cordon d'antekarana, le fils de vie ou cordon d'argent, et alors survient ce qu'on appelle un évanouissement. Cet évanouissement dure 3 jours et demi, et nous faisons une rétrospection dans le monde électronique au monde de la 6e dimension. Nous faisons une rétrospection extrêmement rapide de tout ce que l'on a fait dans la vie. Dès lors, il est arrivé que des personnes ayant failli mourir vivent ces fragments de ces rétrospections. Cette rétrospection, nous la faisons à partir du moment où l'on expire son dernier souffle, jusqu'au moment où nous avons fait notre première inspiration à la naissance. Cette rétrospection dure 3 jours et demi et elle est semblable à un évanouissement. Et ensuite, nous faisons une rétrospection dans le monde astral, le monde des rêves. Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes mortes. Nous pensons que nous sommes toujours vivantes et nous commençons à revivre toute notre vie que nous avons eue de façon rétrospective. Tout d'abord, nous sommes dans l'hôpital où nous sommes mortes. Puis, nous voyons le moment où nous étions avant de mourir. Et puis, ainsi, nous remontons peu à peu à peu jusqu'à notre naissance. C'est une rétrospection cette fois-ci, beaucoup plus lente, qui a comme but de nous faire prendre conscience de tout ce que nous avons fait dans la vie. Lorsque cette seconde rétrospection est faite, nous entrons dans le palais de la loi du karma, qui se trouve dans la 5e dimension, dans l'astral, où le monde des rêves est là, devant une grande balance cosmique, sont pesés nos actes. On ne pèse pas nos intentions, car elles ne valent rien. J'avais l'intention de prendre soin de mes enfants, mais je les ai abandonnés. Je voulais les aider, mais je ne l'ai pas fait. Ces intentions ne comptent pas. Ce qui compte, mes chers amis, ce sont les faits, les actes, les choses que nous avons faites. Toi, fais attention à tes enfants, oui ou non? C'est tout. Oui ou non? Oui, je l'ai fait. Bien, c'est un acte positif. Mis sur les plateaux positifs de la balance de ton karma. Un acte positif. Non, je ne l'ai pas fait, je les ai abandonnés. Et c'est un acte négatif mis sur le plateau négatif de la balance de votre karma. Tous nos actes et faits sont pesés sur le plateau négatif et positif de la balance cosmique. Tous nos actes et faits sont pesés sur la balance, mais pas les intentions, car celles-ci n'ont aucune valeur. Ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Regardez combien d'atrocités a commis la Sainte Inquisition qui était remplie de bonnes intentions. Combien de personnes ont été torturées et tuées. Regardez les très bonnes intentions d'Hitler qui voulait créer un mouvement parfait. Combien de personnes ont-elles été assassinées? Les bonnes intentions ne servent à rien. On regarde les faits. Et c'est en fonction d'eux que le jugement est fait et c'est ce jugement qui va déterminer notre destin final. Ce destin final est fait de 3 schémas qui sont les suivants. Lorsque l'on a pesé les bonnes et mauvaises œuvres d'une personne sur les deux plateaux de la balance et que les plateaux des ombres positives pèsent plus lourd que les plateaux des ombres négatives, ce qui devient rare de nos jours, alors cette personne a droit à des vacances. Ces vacances sont données dans le monde supérieur de la conscience. Si les ombres négatives et positives ont le même poids, alors se produit un retour immédiat. Nous prenons un nouveau corps physique. Mais si le plateau des actes négatifs est plus large que le plateau des ombres positives, et que se sont déterminées les 8 existences ou possibilités qui nous ont été données pour nous autoréaliser sans que nous nous soyons autoréalisés, alors nous entrons définitivement dans le monde des cercles dantesques. Voilà le trois chemins au destin final du désincarné. Le premier chemin étant les vacances à l'Nirvana. Supposons qu'un médecin guérit réellement des personnes sans que l'aspect économique ne l'intéresse beaucoup. Il accomplit son devoir et honore les serments d'Hippocrate faits en sortant de l'université. Bien. Il soigne et guérit ses patientes, un bon samaritain, et le fait durant toute sa vie sans que lui importe de l'argent. Son seul but était de soigner les gens, de les soulager sur l'arrière. C'est une véritable vocation. Le plateau du acte positif de ces médecins aura beaucoup de poids et il aura donc droit à des vacances dans le Nirvana. D'accord? Il est nécessaire de dire que les cercles dantesques ne sont pour l'éternité. Je le répète. Les cercles dantesques, les enfers, ne sont pas pour l'éternité. Bien, continuons. Qu'est-ce que le Nirvana? Le Nirvana est le nom oriental donné au ciel des différentes religions. Vous savez, il existe trois zones à l'intérieur de la Terre. La zone supradimensionnelle, qui est la dimension supérieure de la nature. La zone tridimensionnelle, c'est l'endroit où nous vivons sur Terre, nous, les animaux intellectuels. Et la zone infradimensionnelle, c'est là où nous allons lorsque nous avons échoué, en éliminant les défauts psychologiques et en arrivant à l'autoréalisation intime de l'être. Bien. La zone supradimensionnelle, dans le Nirvana, au paradis, de la langue des Aztèques, le Senkali, ou la maison des maïs des Aztèques, le paradis de Maitreya, le paradis des chevaux longs, etc., font tous partie des dimensions supérieures de la nature. Si on met beaucoup de poids sur le plateau des actes positifs, il sera plus lourd que le plateau des actes négatifs. Si les deux plateaux s'équilibrent, il ne se passera rien. Mais généralement, notre plateau des actes négatifs pèse plus lourd que notre plateau des actes positifs. Par contre, si une personne a fait beaucoup plus de bonnes œuvres que de mauvaises, alors il aura droit à des vacances dans les dimensions supérieures de la nature, c'est-à-dire dans le Nirvana. Dans le Nirvana, dans cet endroit, on est extrêmement heureux, mais ce ne sont que des vacances et elles doivent se terminer un jour. L'unique façon de rester définitivement dans les dimensions supérieures de conscience, c'est en éliminant les moi. Les moi, qui nous les savons, continuent après la mort. Les bonnes œuvres sont une chose, mais ce n'est pas tout. Car après ces vacances, il faut retourner avec un nouveau corps physique parce que les agrégats psychologiques n'ont pas été éliminés. Nous possédons tous des milliers et des milliards de défauts psychologiques. Il faut donc bien sûr faire des bonnes œuvres. Mais il faut aussi éliminer nos agrégats psychologiques. Si nous ne les faisons pas et que nous vivons nos 108 existences humaines, 108, disons par le moment, 108 réincarnations humaines, sans éliminer les défauts psychologiques, à chaque nouvelle vie, l'ego se fera de plus en plus forte, de plus en plus dur, de plus en plus importante, de plus en plus matérialiste. Nous disons de nos jours que les enfants sont beaucoup plus vifs qu'avant. Ah bon? Nous dirions-nous qu'ils sont plus dégénérés qu'avant. Ils manifestent leur colère de plus en plus jeune. Ils sont de plus en plus violents, très jeunes, et n'ont plus de respect pour leurs parents. Ils manifestent leur luxure beaucoup plus tôt que pour avant. Pourquoi? Parce que les mêmes égaux reviennent dans les différents corps physiques qui nous sont donnés. On nous donne 108 vies, 108 existences, 108 perles à l'écolière des Bouddhas, 108 tours faites les prêtres hindouistes autour de la vache sacrée pendant son rituel sacré. Pourquoi? Parce que ce sont 108 opportunités qui nous sont données pour pouvoir nous autoréaliser ici et maintenant dans le règne humain. Lorsque nous arrivons à ces 100e existence, lorsque nous sommes extrêmement grossières, lorsque nous arrivons à la 107e existence, la rédemption est presque impossible parce que nous sommes déjà très très dégénérés. Et lorsque nous arrivons à la 108e existence, cela devient presque impossible de s'autoréaliser. On pourrait le faire, mais à ce moment-là, l'ego est tellement fort que c'est très difficile d'avoir une inclination ou un intérêt par tous ces sujets spirituels. De nos jours, dans la situation dans laquelle nous sommes, en ce moment, l'immense majorité des êtres humains actuels se trouve dans la 107e vie de leur dernière existence. Lorsque les 108e vies sont terminées, alors il n'y a plus aucune possibilité de changement. L'ego est tellement grossier et si fort dans la psychologie des gens, que l'unique chemin qui nous attend sont les cercles dantesques. Cette œuvre merveilleuse de Dante Alighieri, est une œuvre initiatique, ésotérique. Les personnages qui observent Dante Alighieri dans chaque cercle dantesque sont les passions humaines, les moi, qui nous mènent dans le monde des enfers. Dante Alighieri nous dit que dans les premiers siècles se trouvent les personnes qui n'ont pas été baptisées. C'est évidemment symbolique. Le baptême ne signifie pas se mettre de l'eau sur la tête ou se bagner seulement, non. Le baptême représente la transmutation de nos énergies créatrices. Dans le second siècle de Dante, nous dit que se trouvent les fornicateurs, ceux qui ont commis l'adultère, les luxurieux, et ont fait presque tout le monde. Dans le troisième siècle se trouvent les alcooliques, les gloutons. Dans le quatrième siècle, les avares, les gaspilleurs. Dans le cinquième siècle, les coléreux et les furieux. Dans le sixième, les athées et les mauvais parents. Dans le septième siècle se trouvent les menteurs, les falsificateurs, les violents contre l'art, contre la nature, contre Dieu. Dans le huitième siècle, les faux alchimistes. Dans le neuvième siècle, les traîtres. Finalement, nous allons tous aller dans les cercles dantesques. Tous. Nous avons donc tous une place assurée dans les cercles dantesques, chers amis. Nous allons tous sur ce chemin. Pratiquement toute l'humanité entière se précipite dans les cercles de l'enfer. Ce ne sont pas une ou deux personnes qui s'y dirigent, mais l'immense majorité de tous les êtres humains qui vont sur le chemin des cercles dantesques. Ces cercles dantesques ne sont pas éternels, mais on dit qu'ils le sont, car le temps qui est passé là-bas est extrêmement long, de 8000 à 10000 ans. Je le répète, 8000 à 10000 ans sont nécessaires pour éliminer tous ces égos que nous avons créés et tous ces karmas que nous avons générés durant ces 108 vies déçues. À la fin, lorsque tous ces égaux et tous ces karmas sont éliminés avec des souffrances, les sens se libèrent et commencent donc, à ce moment-là, un nouveau cycle. 108 possibilités nous sont données encore une fois pour nous autoréaliser. Si nous ne les faisons pas, la porte des enfers est toujours ouverte et nous embolerons alors une nouvelle fois dans des rangs de douleurs et souffrances jusqu'à ce que soient éliminés tous les mois que nous n'avons pas pu éliminer nous-mêmes pendant que nous sommes vivantes. C'est donc le deuxième schéma. Le troisième schéma est le schéma de retour immédiat. Lorsque nous mourons, il se fait un schéma électro-psychique de comment nous sommes. Cela se passe dans des dimensions supérieures et en fonction de ces schémas ou design électro-psychique qui s'est fait à notre dernière respiration et qui va montrer ce que nous étions, vous savez. Ivrogne, envieux, luxurieux, orgueilleux, vaniteux, montrer si nous nous droguions, montrer aussi toutes les mal que nous avons fait, ainsi que toutes les biens que nous avons fait aussi pendant la vie. Tout cela est contenu dans ce schéma électro-psychique. C'est lui, et bien lui, dont se servent les âges de la vie pour former notre futur corps vital, qui va être la base de notre corps physique. Alors, mes amis, notre corps physique actuel est les conséquences telles qu'il est de nos actes, de nos vies passées. Ainsi, mes chers amis, le chemin de la vie est formé par les empreintes des sabots du cheval de la mort, et notre corps physique futur va être le résultat de ce que nous avons fait, de ce que nous avons été dans cette vie actuelle. Nous appelons cela la loi du karma, qui va être le sujet de notre prochaine conférence après les vacances. Bien, mes amis, ce sera tout pour ce soir. Nous allons donc vous recommander, pour approfondir ce sujet si intéressant, les livres des morts. Le livre « Erreur ardente des mystères » et « Au-delà de la mort », nous vous suggérons ces trois livres qui se trouvent sur notre website www.savarinosis.net dans la section en français, dans la section des livres, d'accord? Vous pouvez le demander aussi au email, à l'email français, nous disons en espagnol, en anglais, samarinosis.net, d'accord? Vous pouvez le demander à notre email aussi. Bien. Chers amis, merci beaucoup pour nous accompagner aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt.